Europe 1, 7h.
Le Cantal, on est à plus 87% de réservation par rapport à 2019. Ça correspond à la redécouverte du territoire français. Donc je pense que c'est une tendance de fond qui ne s'arrêtera pas avec le Covid.
Le tourisme à la campagne ne connaît pas la crise. Les vacances au vert seront encore très prisées cet été.
Des marches de liberté partout en France. La gauche a manifesté contre l'extrême droite hier. Notre reportage dans ce journal.
Les salles de sport ont rouvert. Mais comment le secteur voit son avenir après 7 mois de fermeture?
Et puis les supporters des Bleus sur le pont. Demain, départ en bus pour suivre le match en Allemagne-France à l'Euro.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Est-ce que vous avez déjà pensé à poser vos congés d'été? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de le faire.
Alors êtes-vous plutôt mer ou montagne ou alors campagne? Parce que c'est l'une des grosses tendances de l'été. Le tourisme rural se développe à vitesse grand V. Mais ce n'est pas étonnant quand on sait que vous êtes très nombreux à vouloir passer vos vacances en France. Victor Pourcher.
Un grand bol d'air loin des villes, voilà ce qui séduit de plus en plus les vacanciers d'été. Les séjours ruraux représentent la moitié des réservations sur le site Airbnb cette année. C'était seulement 29% en 2019. Forte augmentation également pour les campings de ces territoires. Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, voit même plus loin que cet été.
Par exemple, Cantal, on est à plus 87% de réservations par rapport à 2019. Le Puy-de-Dôme ou les Alpes de Haute-Provence sont sur 40 ou 50% de progression. Ces départements sont bien entendu Covid compatible, puisqu'il y a de l'espace. Ça correspond de toute façon à la redécouverte du territoire français. Donc je pense que c'est une tendance de fond qui ne s'arrêtera pas avec le Covid.
Une tendance qui s'appuie sur la mode du slow tourisme. Autrement dit, un tourisme plus tranquille. Et la montagne aussi en profite. Jean-Marc Silva, président de France Montagne.
Il y a un phénomène d'accélération et on est en très forte avance par rapport à l'été dernier. C'est plus que des vacances. Hein. Se ressourcer, recharger les batteries, c'est vraiment ce que les gens viennent chercher, qu'ils vont pouvoir trouver avec grand bonheur cet été.
Un boom du tourisme rural qui ne dépasse pas encore le traditionnel engouement pour le littoral. Cette année, c'est sur la Côte d'Azur que l'on réserve le plus.
Le tourisme rural, sans doute aussi moins onéreux que le tourisme spatial. Un riche et heureux gagnant a payé 28 millions de dollars cette nuit. Il y avait une mise aux enchères pour accompagner Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le 20 juillet prochain dans l'espace.
Chacun son truc.
Chacun son truc, ouais. Je préfère le Cantal. Hein.
Petita. Alors là, on ne parle pas vraiment de vacances puisque c'était une nouvelle fête aux Invalides hier soir.
Oui, même horaire, même endroit que la veille. Vous entendez encore ces jeunes gens chantaient, ça se passe évidemment encore à l'heure du couvre-feu, 23h, lorsque la police est intervenue pour évacuer des centaines de personnes. Des projectiles ont été jetés sur les policiers qui ont procédé à 3 interpellations.
Ouais, des jeunes qui sont même montés sur le toit d'une voiture rouge avec cette conductrice complètement hébétée. Hein. Elle a eu vraiment très très peur. À Strasbourg, un plan d'action immédiat a été mis en place après la découverte d'un foyer de variant indien.
Oui, chez des étudiants avec notamment du coup une vaste campagne de dépistage puisque 4 cas positifs sont déjà identifiés, 43 cas contacts sont en cours d'investigation. La pandémie qui est au cœur du G7 qui s'achève aujourd'hui avec justement une dernière table ronde pour mettre en place un grand projet mondial, reconstruire le monde en mieux. Diane Berger, il s'agit de pistes pour éviter à l'avenir une nouvelle crise sanitaire internationale.
Oui, pour empêcher une nouvelle pandémie comme celle du Covid-19, les 7 dirigeants veulent réduire le délai du développement des vaccins, des traitements et des diagnostics. L'objectif, il est simple mais ambitieux, fournir, si une nouvelle maladie devait apparaître subitement, une réponse efficace en moins de 100 jours. Autre volet de leur projet, réformer l'Organisation mondiale de la santé pour lui donner plus de poids. En effet, aujourd'hui, elle est beaucoup trop faible, écrit Nathalie Coutinet, économiste de la santé, invitée d'Europe 1.
Le problème de l'OMS, c'est qu'elle n'a pas de pouvoir de coercition. Elle n'a qu'un pouvoir d'information, de recommandation, mais elle ne peut pas aller bien au-delà de ça. Donc les recommandations, l'OMS en a faites. Elle a diffusé largement les premières informations qui étaient disponibles sur le virus, mais elle n'a pas de pouvoir coercitif et donc elle ne peut rien imposer aux différents États.
Mais un renforcement de l'OMS paraît ardu sans le soutien de la Chine, réticente pour l'instant aux initiatives du G7.
Les précisions de Diane Berger pour Europe 1.
On va partir maintenant au large de la Corse où il faut vraiment faire le point sur la situation. Une nappe d'hydrocarbures a été détectée.
Après le dégazage illégal d'un bateau au large de Solenzara, la menace d'une pollution aux abords des côtes de l'île de Beauté s'est un petit peu éloignée après le gros travail de pompage des navires de la marine française. On écoute la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Les bateaux sont en train de pomper pour récupérer le plus possible d'hydrocarbures et pour éviter qu'ils viennent se retrouver sur les plages. Nous allons évidemment trouver quels sont les auteurs de ces actes et ils seront punis très sévèrement. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi permet des peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 15 millions d'euros d'amende pour éviter à l'avenir que ce genre de choses puisse se passer. Nous avons notamment des herbiers de Posidonie qui sont nombreux ici, que nous devons protéger face à ces bandits.
Barbara Pompili, et même si la nappe phréatique s'éloigne, la nappe d'hydrocarbures s'éloigne, et bien la pêche reste interdite évidemment dans le secteur, tout comme l'accès aux plages encore aujourd'hui sur à peu près 40 km.
La gauche dans la rue hier contre l'extrême droite.
140 défilés partout en France pour cette marche des libertés, 150 000 personnes mobilisées dans le pays selon les organisateurs et 37 000 selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, parmi les participants, un homme qui a jeté de la farine au visage de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, mais pour le reste, eh bien le cortège a défilé plutôt dans le calme. Reportage de Laura Taouchanoff.
Éric Zemmour, Marine Le Pen, leurs portraits figurent sur de nombreuses pancartes, une croix sur leur bouche pour les bâillonner. Comme Héloïse, beaucoup manifestent contre la montée de l'extrême droite dans le débat public.
Je suis là contre la division en fait. C'est clairement une banalisation de la haine de l'autre. On nous bassine à panthéoniser des résistants tous les ans. Et à côté, on laisse complètement le fascisme s'installer en France.
Une marche contre le racisme aussi et toutes ses dérives. À 22 ans, Lydia veut faire partie du changement.
On n'a pas envie de grandir dans un pays dans lequel les idées d'extrême droite, en fait, elles sont partout, quoi. On n'est pas tranquille, on se dit qu'à tout moment, il y a peut-être quelqu'un avec des idées d'extrême droite qui va venir nous frapper. J'ai de la chance, ça se voit pas que je suis racisée. Ce comportement-là généralisé de contrôler au faciès des gens qui ont l'air racisés, faut que ça s'arrête.
Pour Mathieu, ce sont toutes les lois jugées liberticides ces derniers mois qui l'ont usé.
8 mois de couvre-feu, déconfinement, on n'a pas mis de médecin, on n'a pas levé les brevets des vaccins, par contre, on a réduit les libertés publiques.
À leur côté, une centaine d'organisations de gauche unies pour créer une alternative forte à Marine Le Pen en vue des prochaines présidentielles.
Et puis cette interview ce matin dans le JDD de la jeune Mila, menacée de mort, vous le savez, depuis une vidéo sur l'islam en janvier 2020. « Je suis une dure à cuire, je ne me donnerai pas la mort », dit-elle dans les colonnes du journal du dimanche. La jeune femme qui sort un livre dans 3 jours qui s'intitule « Je suis le prix de votre liberté », publié chez Grasset.
Vous restez avec nous, il est 7h07 dans un instant. On va parler économie puisque les salles de sport viennent certes de rouvrir, mais remonter la pente sera bien, bien difficile. À tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Lénaïque Meunier. Les sportifs en salle peuvent de nouveau aller se dépenser après de longs mois de fermeture.
L'impact financier de cette longue période sera difficile à digérer. Les professionnels du secteur sont tiraillés entre la crainte de l'avenir et la joie de retrouver leur clientèle. Explication Caroline Baudry.
Ça me fait plaisir, ça fait 3-4 mois, je me dis j'ai vraiment envie d'aller grimper en salle d'escalade. On va essayer de rester jusqu'à temps qu'on ait plus de force en fait.
Sur son mur d'escalade, Tom retrouve ses sensations. Ses passionnés renfilent leurs baudriers, font claquer les mousquetons. Mais derrière cette euphorie de la réouverture plane un gouffre financier, confie François Petit, le fondateur de la salle.
On sera bien en dessous de notre objectif, on est à peu près à 30-31% du chiffre d'affaires prévu pour l'année 2020-2021. On a eu des prêt garanti par l'État, il faudra les rembourser et surtout ça nous endette. Pendant 2-3 ans, cela va être compliqué.
Dans les salles de fitness, c'est pire. Elles ont perdu en moyenne la moitié de leur chiffre d'affaires en 2020. La même année, un tiers des abonnés a rendu sa carte, s'inquiète Guillaume Schroll, vice-président du syndicat France Active.
On estime qu'il va falloir 12 à 18 mois pour retrouver le niveau d'abonnés avant Covid, alors que les charges fixes, elles, on va les retrouver. Et sans parler de la dette, des loyers qui ont pu être repoussés pour certains, qu'il va falloir rembourser. Et l'inquiétude, elle vient du fait que les aides vont s'arrêter à fin août.
Ils demandent un accompagnement financier au moins jusqu'à fin décembre, le temps que les Français retrouvent pour de bon le chemin des salles de sport.
Caroline Baudry pour Europe 1.
Et la question du chiffre d'affaires se pose aussi pour les parcs d'attractions qui rouvrent peu à peu à 7h40. Nous serons au parc Astérix. Après les salles de sport, le sport dehors, les Bleus se préparent à entrer dans leur Euro de football.
Départ demain pour Munich avant d'affronter l'Allemagne pour la bande à Deschamps qui sera encouragée par quelques 2000 supporters français. Lionel Gougelot a suivi les préparatifs des membres du club de l'équipe de France de Dunkerque.
Son billet numérique pour France-Allemagne précieusement enregistré dans son téléphone portable, Yannick compte les heures avant le départ demain pour Munich.
On part lundi soir pour arriver mardi midi à Munich, donc on va se taper 15 heures de bus à l'aller et 15 heures de bus retour.
Tous les supporters du groupe partiront avec un test PCR négatif en poche, mais une fois en Allemagne, il faudra réaliser sur place un deuxième test antigénique pour accéder au stade.
Donc en gros, on va devoir être testé en Allemagne le jour du match. Alors ça a été un peu compliqué parce qu'on va arriver aux alentours de 12-13 heures et on va devoir trouver un centre de test pour avoir notre test pour entrer au stade. Moi, j'arrive avec un bus, donc les 40, on va devoir se faire tester, même si ça prend 5 minutes chacun, bah, on va passer encore 2-3 heures l'après-midi au lieu d'aller faire un petit tour en ville.
Dans le groupe de supporters, Mehdi croise les doigts pour que tous les tests soient bien négatifs.
Il ne faut pas se rater parce qu'on n'a pas envie d'arriver là-bas et être en quarantaine, quoi. Après avoir enduré plus d'un an dans l'attente de l'euro, on touche du bois, on va dire, pour vraiment qu'il ne se passe rien et qu'il n'y ait personne sur le carreau et puis qu'on puisse voir tous les matchs, quoi.
Des formalités sanitaires qui devront être répétées pour le prochain match des Bleus à Budapest pour une compétition décidément pas comme les autres.
Déjà à la base, l'euro, 12 villes au départ, pour les supporters, c'était vraiment pas évident d'organiser quelque chose, surtout sur les phases finales. On est des passionnés, donc on est prêt à tout pour supporter l'équipe de France.
Une équipe de France que ses supporters espèrent bien accompagner jusqu'à la finale de Londres. À Dunkerque, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et puis le joueur danois Eriksen va mieux, il s'est réveillé, il a pu parler, a fait savoir son agent. On l'a vu hein, hier s'écrouler en plein match de l'euro hier après un arrêt cardiaque.
Et puis cette histoire un peu folle pour terminer, ça se passe en Afrique du Sud, un homme avalé puis recraché vivant par une baleine.
Oui, un peu comme Pinocchio ou Jonas et la baleine, sauf que ce pêcheur n'est pas resté dans l'estomac du cétacé, il s'en sort indemne. Comment est-ce possible? C'est Éric Demet, spécialiste des mammifères aquatiques, qui nous l'explique.
Les mâchoires de la baleine à bosse s'ouvrent vraiment à une forte amplitude. Donc en théorie, c'est possible, il peut rentrer entre les deux mâchoires. Pour ressortir, par contre, ça a dû être bien plus compliqué. Il se peut que la baleine ait pu faire une erreur de pouvoir absorber le plongeur. Au large de Boston, où s'est passée cette situation, le stock de harangue a fortement diminué et les baleines à bosse se sont adaptées à ça. On peut supposer qu'elles soient moins techniques dans leur façon de chasser. Bien entendu, l'homme ne fait pas du tout partie du menu d'une baleine.
Non, évidemment, l'homme ne fait pas partie de l'alimentation de la baleine. Heureusement, ça reste le plancton.
Et ben voilà, comme ça, au moins, on est prévenu. Merci beaucoup, ma chère Lénaïque, à tout à l'heure pour un nouveau journal.